Nous le savons bien, nous l'avons bien compris, la Pentecôte célèbre le jour où l'Esprit-Saint est descendu sur les disciples, le jour où l'Esprit-Saint a été répandu sur l'Église naissante. Et l'effet de l'Esprit-Saint est immédiat, il chasse les peurs et il rend audacieux pour l'annonce de l'Évangile. Ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est que c'est tous les jours que nous devons accueillir l'Esprit-Saint dans nos cœurs. Et j'ai retrouvé une phrase du pape Paul VI qui est absolument merveilleuse et qui disait ceci, que l'Église a besoin d'une Pentecôte perpétuelle. L'Église a besoin de feu dans les cœurs, de paroles sur les lèvres, de prophéties dans les regards. Alors, la question que nous pouvons nous poser, c'est de savoir pourquoi le Seigneur Jésus nous dit à propos de l'Esprit-Saint que le Père nous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec nous. Pourquoi l'envoi d'un autre défenseur? Tout simplement parce que Jésus, en retournant vers son Père, nous promet de ne pas nous laisser orphelins. Et ce défenseur qu'est l'Esprit-Saint, c'est-à-dire l'Esprit commun du Père et du Fils, eh bien, il nous est donné comme présence du Christ ressuscité. Une autre question que nous pouvons encore nous poser, c'est de savoir pourquoi l'Esprit-Saint est qualifié de défenseur. En principe, quand on parle d'être défendu, c'est qu'on est attaqué. Eh bien, l'Esprit-Saint est précisément celui qui vient à notre secours. Sans lui, nous serions bien incapables de mener le bon combat et de nous conformer à l'amour du Seigneur. Vous le savez bien, le combat qui est à mener en nous et dans le monde, c'est bien celui de la lutte contre le péché, contre la désespérance, contre nos difficultés à croire à la miséricorde, contre nos aveuglements et que sais-je encore. Vous savez, quand c'est l'Esprit qui mène ainsi le combat en nous, alors on peut, à juste titre, parler de combat spirituel, c'est-à-dire ce combat que nous menons pour distinguer dans nos vies ce qui vient du malin, ce qui vient de l'Esprit-Saint, afin de mener une vie sainte, c'est-à-dire une vie qui réponde à l'appel que Dieu nous adresse d'être bon, comme lui-même est bon. D'où la grande importance pour chacune et chacun d'entre nous d'entrer en dialogue avec l'Esprit-Saint, en y mettant toute notre intelligence et tout notre cœur. Car c'est de lui seul, l'Esprit-Saint, que nous pouvons recevoir inspiration et illumination. Et c'est saint Jean qui nous rappelle que, effectivement, l'Esprit-Saint est celui qui nous enseignera tout et nous fera souvenir de tout ce que le Seigneur a dit et enseigné. Pour rejoindre nos contemporains, pour les rejoindre dans ce qu'ils vivent, y compris dans ce qui est absurde, comme encore cet attentat supplémentaire, incessant, qui vient de se passer à Londres encore ce matin. Eh bien, pour rejoindre nos contemporains dans ce qu'ils vivent, nous devons nécessairement demander la lumière et la force de l'Esprit-Saint. Ce souci pastoral de l'annonce de l'Évangile dans ces temps complètement perturbés ne peut pas se faire sans l'Esprit-Saint, qui seul sait ce qu'il y a en Dieu et ce qu'il y a en l'homme, et qui de ce fait peut nous ajuster à Dieu. Alors l'Esprit Saint a aussi un autre pouvoir, et qui est de première importance. Ce pouvoir de l'Esprit Saint, c'est celui d'allumer en nos cœurs le texte même de l'Évangile, et de l'allumer à la façon dont un souffle d'air vient faire jaillir les flammes qui couvent sous la cendre. Vlouf, ça repart. Et c'est encore l'Esprit Saint qui met en action les paroles de vie du Père et du Fils qui sont dans toute sa création et dans notre histoire. L'Esprit Saint, c'est également celui qui nous fait passer d'un comportement d'esclave à celui d'homme libre. C'est saint Paul qui nous le dit. Nous n'avons pas reçu un esprit qui fait de nous des esclaves, mais des filles et des fils. Alors c'est pourquoi, me semble-t-il, à l'exemple du petit frère François d'Assise et de tant d'autres, nous devons, quand nous prions, demander deux grâces. La première, avoir l'Esprit du Seigneur. Deux, le laisser agir en nous. Vous savez, saint François avait un tel sens de l'Esprit Saint qu'il ira jusqu'à écrire dans sa règle que le véritable ministre général de l'ordre, c'est l'Esprit Saint. C'est fabuleux, c'est étonnant, enfin, de pouvoir dire cela. Le message est clair de la part de frère François. Ça veut dire que les structures, que les règles doivent être servantes de l'action de l'Esprit. Ce qui veut dire que l'Esprit Saint peut être comparé à un fleuve impétueux qui fait son chemin dans le lit étroit qui le canalise, sans jamais pourtant être prisonnier de ce lit duquel il déborde quand il veut pour aller où il veut. L'Esprit est libre. Encore une fois, les structures, de quelque nature qu'elles soient, y compris l'Église, se doivent d'être au service de cette liberté de l'Esprit Saint. Alors, au cours de cette Eucharistie, on va prier tous ensemble. Enfin, on va continuer à prier tous ensemble. Nous allons prier l'Esprit Saint d'illuminer notre marche vers le Père. Nous allons le prier de telle sorte que nous puissions être de ceux qui vont aux périphéries, comme le fleuve qui déborde. Nous allons le prier pour que nous soyons de celles et ceux qui contribuent à allumer le feu de l'Esprit dans les cœurs de celles et ceux qui cherchent, qui marchent dans la nuit et qui parfois sont confrontés au pur absurde. Comme la Vierge Marie, mettons-nous à l'ombre de l'Esprit Saint, afin de garder vivante la parole de Dieu et de lui permettre ainsi de trouver en nos propres cœurs sa pleine réalisation. Et enfin, disons un immense merci à Dieu, parce que dans le don qu'il nous fait de l'Esprit Saint, eh bien chacune, chacun d'entre nous devient capable de Dieu. Dans l'Esprit Saint, nous devenons capables de Dieu. Nous sommes délivrés de notre condition d'orphelin. Nous sommes restitués de notre dignité de fils et filles de Dieu. Amen.